Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. C'est désormais officiel. À partir de ce mercredi 29 janvier, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé leur retrait le 28 janvier de l'année dernière. Avec effet immédiat, les statuts de la CEDEAO prévoyaient un délai d'un an. À compter de ce mercredi 29 janvier, c'est donc fait. Les deux parties considèrent que ce départ est effectif, mais de nombreuses questions essentielles restent à régler. À partir d'aujourd'hui, la CEDEAO et les pays de l'AES doivent initier et négocier les formalités de retrait. Quelles conséquences pour ce retrait des pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO? Le vœu de paix de l'intégration de la sous-région ne reçoit-il pas un coup? Je poserai ces questions à mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la presse de ce mercredi 29 janvier 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa sur la mise en onde. Giro Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. C'est un privilège pour nous de vous savoir également très nombreux à nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios en ligne qui sont justement nos partenaires, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio. L'équipe de mercredi est déjà en place. Sylvestre Béni, bonjour.
Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, je suis en forme.
Dieu merci, c'est l'essentiel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Estelle Koudzonou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Dieu merci. Abassi Saka, toujours commandant, bonjour.
Ouais, bonjour, toujours commandant. Je salue tous les auditeurs autrices de la radio Canal FM qui nous suivent en ce moment.
Commandant, mais des gens sont également jaloux de tes acquis. Hein.
Malgré ça.
Ou bien.
Malgré ça.
Non, mais là, il te faut maintenant accéder à d'autres grades pour que tu les dépasses.
Comme
parce que je sais que des gens comme Patrick veulent toujours te montrer qu'ils ont.
Ils ont
assez de grades.
Ils sont montés en grade à commandant, non? Donc, Patrick est arrivé en commandant, moi, je vais monter.
Ah ouais, rapidement. C'est très important. On t'attend. Alors, Justin Anani, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Je rends grâce.
Dieu merci.
Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Une pensée à l'entraîneur Paul Zoubiri et Francis Tété Bihunza, qui a fondé aussi sa fondation qui s'appelle...
Pourquoi vous êtes footballeur? Vous jouez du foot?
Je regrette de n'avoir pas en fait une carrière.
Il fut un très mauvais joueur.
Le commandant est là, il peut témoigner.
Mais oui, justement, je sais que le commandant, c'est un ancien joueur. Il devait... Enfin, je ne sais pas, vous continuez.
Un grand numéro 9.
Justement, vous continuez,
c'est
commandant.
C'est même catégorie.
On a notre Gaïa qui joue.
Ah, mais voilà, vous êtes justement dans Gaïa... vous jouez aussi.
Oui, le football, c'est une très bonne discipline sportive. Donc, je salue tous ceux qui aiment le football, les anciens joueurs également du Togo.
Normalement, tel qu'on a connu les Adebayo, on devait connaître les Justin Anani aussi.
Non, je regrette de n'avoir pas fait une carrière.
Parce que quand je fais allusion à mon entraîneur Paul Zoubedi, je fais allusion à Baba Bakou et autres. Donc nous sommes en avance par rapport à Adebayo. Papa étant tellement très exigeant, donc il ne veut pas aller jouer. Donc ça passe par là aussi. Mais nous sommes au Togo. Il y a aussi une question de connaissance. Si vous ne faites pas partie du réseau, là, vous ne pouvez pas évoluer convenablement.
C'est-à-dire des relations, vous voulez dire?
Oui, ça n'en manque pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Je pense que c'est un débat, hein?
Ouais.
C'est un débat. On vous dira aussi qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont eu aussi ce destin tracé. Quand on prend quelqu'un comme un Adébayor.
Oui, parce qu'arrivé à un moment donné, il faut faire le choix. Continuer les études que de continuer.
Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit.
Ouais, à un moment donné, oui. C'est le choix qui a été fait et je remercie Dieu.
D'accord. Ce qui est sûr,
nous regrettons. Parce que s'il y a un regret, c'est de n'avoir pas joué comme je le voulais. Donc,
c'est vrai que je t'ai jamais vu jouer, mais je regrette quand même de ne pas t'avoir comme un grand footballeur.
Je crois que son papa l'a sauvé. Son papa l'a sauvé parce que lorsque vous avez un monsieur qui a morti avec son tibia, je crois que le papa
ce qui est sûr, il trouve quand même l'opportunité de faire une bonne carrière avec le micro.
Ah oui, voilà.
Et la plume,
et la papa est content.
Il a dit tout à l'heure qu'il continue pas à jouer dans les Gaia Club.
Il faut avoir l'occasion de venir me suivre aussi du terrain de la Sosa. Il y a une équipe des Gaia aussi là, donc de la Sosa et puis du Transaya Football Club. Je profite également de l'occasion pour saluer le président de Sosa, Marcel, coach Yvon Kouachi, le DT même de l'équipe, et tout le reste.
D'accord. Voilà. Merci, Justin, d'être là et d'avoir répondu à notre observation. Voilà. Gadiel Tsonandi aussi est là. Gadiel, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Je ne sais pas si toi aussi tu joues quand même.
Non. Si, on a eu à jouer.
Ah, voilà, on a eu à jouer, c'est bien dit.
Tout le monde a eu à jouer.
Tout à fait.
Un bon latéral, lorsque j'étais au collège, au lycée. Bon, c'est les études universitaires qui nous ont. Voilà.
Allez, on ne dirait quand même pas que l'étude t'a sauvé, toi.
Bon.
Bizarre que tout soit latéral. Hein. Je ne sais pas si c'est
Je disais que si la balle passe, vous ne passez pas. Hein? Voilà.
C'est très facile.
C'était un gâteau d'eau.
Ça fait plaisir justement de vivre cette ambiance en début d'émission. Nous commençons cette émission avec vous, Santé Éducation, bien sûr. Santé Éducation, là, vous vous intéressez à beaucoup de sujets, hein, comme d'habitude, liés à notre santé. Et vous êtes revenu sur les habitudes alors qu'ils font grossir. Et là, vous revenez également sur l'enquête STEP 2021 par rapport à la prévalence du surpoids et l'obésité au Togo.
Absolument. Vous savez, le surpoids, l'obésité, c'est un phénomène au niveau de la santé publique dans tous les pays, notamment dans nos pays. Et nous aimons comparer deux données. En 2010, on a fait l'enquête STEP au Togo et il s'est révélé que un peu plus de 15% de Togolais sont en surpoids. Et puis en 2021, ce qu'on a publié dernièrement, l'année dernière, le chiffre a doublé, plus de 30% de Togolais sont en surpoids. Donc c'est des valeurs qui inquiètent beaucoup. Et quand 10 ans après, c'est le double des personnes, l'enquête allait jusqu'à dire que il y a un groupe ethnique même qui est plus visé, le groupe ethnique Adja Eve Mina, hein. C'est dans ce groupe ethnique qu'on trouve plus des personnes en surpoids, en obésité. Donc cela dépend de quoi? De l'alimentation, du mode de vie. Et ce, voyez. Donc il y a des pratiques qui favorisent le surpoids. Le surpoids, c'est un élément très mauvais pour la santé, hein. Quand on est en surpoids, c'est que on est envahi par de la graisse au niveau abdominal et puis d'autres parties, et la graisse qui colonise les organes essentiels, c'est très mauvais pour la santé. Il y a plusieurs pratiques dans cet article. Qu'est-ce qui peut amener une personne à grossir, à prendre du poids ou bien à devenir obèse? Dans cet article, on est revenu sur un certain nombre d'éléments. Le plus connu, le plus facile aussi à faire, c'est quoi? C'est le fait de bouger faiblement. Hein? La plupart des gens sont sédentaires, donc la pratique de l'exercice physique et sportif dans nos vies n'est pas cela. L'OMS dit 30 minutes d'activité sportive par jour, hein. On n'a pas dit par mois,
Par jour.
Ou bien par semaine. C'est par jour. De lundi à dimanche, si on va être un peu plus précis, et vous reprenez la semaine prochaine, jusqu'à la fin de l'année. C'est la norme pour avoir la santé, mais beaucoup n'arrivent pas à le faire. Au niveau de l'enquête STEP, il y a des données comme ça. La plupart des Togolais n'arrivent pas à faire ce genre d'activité sportive ou bien, voilà, et physique. Et c'est ce qui fait que les gens grossissent. Il y a aussi la mauvaise alimentation. On va trouver les aliments énergétiques, les aliments calorifiques. Alors, quand on consomme ce genre d'aliments et on est sédentaire, on ne bouge pas beaucoup, on prend du poids. Et quand on prend du poids, c'est la survenue de l'hypertension, c'est la survenue du diabète, on est très ouvert à certains cancers, c'est beaucoup de maux. Elle se voit dans un article important que nous recommandons nous tous. D'accord. À lire.
Oui, ben justement, un article très important que vous recommandez à nous tous à lire. Et à côté même d'ailleurs de cet article, vous écrivez aussi un autre article similaire et qui donne peut-être la réponse à tout ce que vous venez alors de dire. C'est cet article qui est intitulé « Alimentation pour perdre alors du poids ».
Absolument, c'est une réponse à cet article qui est à côté. « Alimentation pour perdre du poids ». Pour perdre du poids, le premier levier sur lequel on doit jouer, c'est l'alimentation. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas du sport agressif, hein? Et ce n'est pas aussi des thés, c'est pas un certain nombre de choses qu'on offre. C'est d'abord l'alimentation, ce que vous mangez, matin, midi et soir. C'est sur cela qu'on agit pour perdre du poids. Et là, il faut aller vers un certain nombre d'aliments que nous avons cités dans cet article. Des aliments moins calorifiques, qui sont très riches en fibres. Là, on voit les fruits et les légumes, un certain nombre de féculents qu'on doit préférer pour perdre du poids. Et ajouter au sport, ajouter à une bonne hygiène de vie, on peut perdre du poids d'une manière santé, s'il vous plaît. Parce que les gens veulent perdre du poids. En un moment, on veut perdre 15 kilos. Vous allez tomber malade, donc on perd du poids progressivement en adoptant les bonnes mesures. Donc dans cet article, il y a des pistes de solutions pour cela, par l'alimentation bien sûr.
D'accord, un article à retrouver dans votre journal Santé Éducation paru ce matin, c'est justement à la page 6 alors du journal. À la page 3, vous revenez sur la période de chaleur. Et période de chaleur, vous écrivez période de chaleur, alimentation à privilégier.
Le coût de la chaleur, hein, c'est un phénomène. Alors, vous allez voir, dans ces temps, s'il y a des gens, quand vous touchez le corps, ils ont le corps chaud, ils ont de la fièvre, hein, petit comme grand. Ou bien, très tôt le matin, on sue déjà. Hein, il y a de la sueur, on est nonchalant, on est fatigué. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétit, on n'a pas la volonté, on est entre guillemets paresseux. La chaleur a ses effets sur le corps. Plus encore chez les personnes les plus faibles, les enfants, ceux qui ont un certain nombre de maladies chroniques, les personnes âgées, et voir tout le monde. Donc, la période de chaleur, c'est une période assez particulière. Chez nous, en Afrique, on ne communique pas beaucoup sur cela. Sous d'autres cieux, quand on est en période de chaleur, il y a tout un changement de mode de vie, l'habillement, l'alimentation, le mode de vie, même tout change. C'est pour s'adapter à la situation. Mais chez nous, nos habillements ne changent pas, nos habitudes ne changent pas, on mange de la même façon. Ce qui fait que pendant ces moments de chaleur, quand vous visitez les hôpitaux, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour de la consultation, beaucoup de malades. Alors quand pendant la chaleur, il y a un genre d'alimentation qu'il faut avoir, sinon on va tomber malade. Dans cet article, c'est dit. Donc il faut lire.
Il faut lire, c'est important. Il y a celle qui veut vous poser une question concernant surtout cette question d'alimentation en matière, enfin dans la période de chaleur.
Non, c'est surtout lié à l'obésité. Il a fait une révélation qui m'a fait tiquer, le fait que le taux le plus élevé de personnes en état d'obésité se retrouve dans le groupe Ajay et Wemina, si j'ai bien saisi. Oui. Je suis curieuse de savoir les causes qui ont été révélées et l'action post-étude. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation sur le terrain? Qu'est-ce qui a été fait concrètement par rapport à cette étude-là?
Bon, vous savez, l'enquête STEP a sorti des données, hein, des données qui se trouvent dans le document. Et comme c'est des cibles, on a posé un certain nombre de questions, on a pris des données. Donc, lorsqu'on a tout rassemblé, on a vu que le support à l'obésité se trouverait plus dans ce genre de groupe ethnique. Maintenant, les actions post-études, ça c'est... Il faut poser la question à ceux qui ont fait les études. À ceux
non, mais je sais que Santé Éducation a organisé même d'ailleurs une conférence de presse l'année dernière sur le sujet avec d'autres actions aussi.
Vous savez, ce dont je viens de parler, c'est très rare, on n'en parle pas beaucoup. Ce que je viens de dire par rapport à ce groupe ethnique-là, les études, on n'en parle pas beaucoup. Or, c'est ça. Dans plusieurs pays, hein, quand vous allez dans certains pays, vous allez voir un groupe ethnique, ils ont un certain nombre de maladies, ils ont un certain nombre de comportements, et cela joue aussi sur leur santé. Donc, l'étude est claire que le surpoids, l'obésité, c'est plus remarqué au niveau de ce groupe ethnique.
D'accord.
À Djaïvé Mina, au Togo.
Alors, vous intéressez à un repas ou à un plat que nous aimons tant, c'est Akpan, les boules d'Akassa, bien sûr, comme nous aimons les appeler. Et vous écrivez Akpan, savoir consommer sans risque.
Voilà, vous savez, ce genre d'article peut-être va donner une petite réponse à la consoeur. Akpan, qui sont ceux qui consomment Akpan? Akpan, c'est un aliment de quel groupe ethnique au Togo? Est-ce que vous voyez, Akpan, cet aliment raffiné du maïs, qui, en grosso modo, est fait à base de l'amidon du maïs. Donc, c'est des glucides, c'est du sucre qu'on consomme. Et quand vous voyez comment on consomme Akpan chez nous, souvent c'est Akpan avec YBC, du piment rouge, avec kanami. Bon, cette façon de consommer Akpan, d'après les spécialistes, fait monter rapidement la glycémie. Hein? Et vous allez voir que la plupart des femmes se plaignent. Oh, ben, nous, on mange seulement Akpan, il n'y a rien dedans, c'est vrai. Il n'y a rien dedans parce qu'elles savent qu'on a sorti quelque chose du maïs.
On pense que c'est léger.
C'est léger, voilà. Donc, on a sorti quelque chose du maïs pour faire Akpan. Donc, Akpan est, même si vous touchez l'aliment, ce n'est pas du poids, est-ce que vous voyez? Mais il y a quelque chose, c'est l'amidon. C'est du sucre, c'est de l'énergie. Alors, quand vous consommez cela et que vous ne bougez pas, vous allez grossir. Donc, Akpan, qui sont ceux qui doivent consommer Akpan? Comment consommer Akpan? Est-ce que Akpan, c'est un aliment pour les diabétiques? Est-ce que les diabétiques peuvent consommer Akpan? C'est un article qui nous a pris plusieurs mois d'études avec des spécialistes que nous publions. C'est un article inédit que nous proposons aux Togolais. Comment nous allons consommer Akpan au Togo pour ne pas risquer notre santé? C'est un aliment important, c'est un aliment bien, mais la manière dont on le consomme, ça fait grossir des gens. Et on propose ça aux diabétiques pour dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est léger, il n'y a rien dedans. Et c'est ça qui aggrave leur état de santé parce que la glycémie monte, est-ce que vous voyez? Donc, un article est important pour nous tous. Mais nous voulons quand même dire une chose. Akpan dans le sachet plastique, c'est très mauvais pour la santé.
Est-ce que c'est ce qui est à la mode maintenant?
C'est ce qui est à la mode. Et c'est vraiment dommage parce que cet aliment servait dans les feux de bananier ou bien de plantain, quelque chose comme ça, c'est plus sain. Hein? Et avec tout le style de consommation proposé dans cet article, Akpan va devenir un aliment que tout le monde pourra consommer.
D'accord.
Mais Akpan dans le sachet, c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique.
Puisque souvent, c'est quand Akpan est chaud qu'on lui dit c'est toxique.
C'est toxique.
D'accord. Alors, on termine cette chronique avec ce titre à la page 5. Vous écrivez « Pratiques nuisibles pour la santé du pancréas ». C'est quoi ces pratiques, Gadiel?
Le pancréas, vous savez, c'est un organe important qui agit beaucoup sur la digestion, la bonne digestion et puis... la régulation du taux de glycémie, du taux de glucose, du sucre dans le sang, parce que c'est l'organe qui sécrète l'insuline. Alors, chez les diabétiques, c'est un organe qui est malade. Si quelqu'un a une glycémie élevée, c'est que son pancréas ne fonctionne plus bien. Ça, c'est un premier signe. Donc, au niveau de la phytothérapie, de la thérapie africaine, souvent, ceux qui sont des diabétiques, on cherche à travailler sur le pancréas. Il faut d'abord guérir le pancréas. Que le pancréas reprenne sa fonctionnalité. Et cela va permettre vraiment aux diabétiques un bon traitement.
D'accord.
Alors, il y a des mauvaises pratiques. Hein. L'excès de sucre, l'excès de graisse, c'est un article que nous recommandons, nous tous. Comment nous devons prendre en charge nos pancréas pour ne pas devenir diabétiques et pour ne pas créer d'autres maux en nos pancréas pour perdre nos santé.
D'accord, c'est un article à lire dans votre journal Santé Éducation, le numéro 800 est paru ce matin.
Absolument.
Et donc, nous avons intérêt quand même à lire ce journal. Et c'est, si nous voulons l'acheter, c'est à quel prix et quelles sont les conditions?
1000 francs le journal papier dans les kiosques en pharmacie, 500 francs pour le journal téléchargé sur le site www.santeeducation.tg.
Gadiel Tenadi, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous hein, sur ces sujets de santé qui nous concernent tous. Merci d'être passé. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau. SL, c'est vous qui nous donnez le premier sujet à débattre ce matin. C'est concernant, bien sûr, le marché de la télécommunication. Et vous écrivez, bien sûr, sur le sujet marché de gros des télécommunications. L'ARCEP fixe les plafonds tarifaires 2025. Et, on a envie de savoir quels sont même ces tarifs. Ou du moins justement ces tarifs qui sont plafonnés par l'ARCEP.
Il s'agit des tarifs de gros. Donc les tarifs de gros sont des prestations fournies par un exploitant de réseau de communication à d'autres exploitants qui offrent des services également de télécommunications. Donc l'étude a été faite par l'ARCEP. Et on a constaté qu'il y a une diminution des coûts au niveau des opérateurs de téléphonie. Donc, il devait se répercuter automatiquement sur les tarifs de gros. Donc, c'est après l'audit que les tarifs de gros ont été nivelés. Donc, je ne vais pas tout détailler quand même à l'antenne. Je convie les opérateurs de gros à saisir l'occasion, acheter le journal pour avoir plus des informations complémentaires. Mais de manière ramassée, et ça a une incidence quand même sur les coûts des prestations au niveau des opérateurs de téléphonie, et c'est en cela que l'ARCEP a tenu à réguler les prix comme c'est son rôle d'ailleurs, c'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications, et c'est ce qu'elle a fait. Donc l'article est dans le journal. Et
journal Gazelle Info, bien sûr.
Journal Gazelle Info. Mmh.
Sylvestre, nous allons nous intéresser surtout à cette diminution, ce qui doit normalement profiter surtout aux citoyens, aux clients de cette téléphonie mobile.
Ceux qui sont également dans le gros, ce sont également des Togolais. Oui, bah, voilà, la première question quand j'ai vu la une donc de Gazelle ce matin. Je me suis posé mille et une questions parce que je me dis, est-ce que c'est nous, quand je dis nous, c'est-à-dire, est-ce que c'est le citoyen lambda qui va quand même bénéficier de cette réduction-là? Mais d'après ce qu'elle a expliqué, ça ne concerne presque les exploitants.
Exactement.
C'est entre eux que le jeu se fait. Mais si ça ne concerne que les exploitants, je crois que d'une manière ou d'une autre, certains aussi qui ne sont pas exploitants, mais qui peut-être vont chercher ou qui ont des contrats avec eux, je ne sais pas si ils auront une réduction. Mais l'essentiel à noter, c'est que c'est entre exploitants. Alors si c'est entre exploitants, ce sont également des Togolais, s'ils peuvent avoir également cette réduction, ce serait bien. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait œuvrer à ce que nous, hein, qui payons encore des crédits donc de 1000 francs ou de 2000, que nous puissions également avoir des réductions, surtout pour la durée, hein, la durée donc des appels et tout, hein, pour que, voilà, que parce qu'on voit un peu dans la sous-région. Et c'est vrai que, bon, on dit très souvent que nous avons les meilleures offres, les meilleurs débits et tout, mais le coût reste un peu élevé. À mon avis, le coût reste un peu élevé. Si on peut œuvrer à ce que ces coûts-là soient relativement bas, pour le bas peuple encore, que nous sommes dans une situation compliquée depuis quelques années, je parle de la vie chère.
Donc, voilà.
Oui, en fait, il faut ajouter que selon une étude récente de l'ARCEP, ce sont les consommateur au niveau du bas peuple qui paient beaucoup plus. C'est un peu ça le contraste. En fait, ils ont catégorisé les consommateurs en trois groupes. Il y a les consommateurs primaires, les consommateurs moyens et les consommateurs VIP. Mais quand on fait un peu une comparaison, le benchmarking, market marking, comment on l'appelle dans une comparaison des prix, on constate en fait que ce sont les consommateurs de la classe basse qui déploie beaucoup plus d'argent pour la consommation des produits. Donc, pour les VIP, ils sont privilégiés naturellement par rapport à leur consommation. Les moyens également, ils ne perdent pas trop, ils ne sont pas non plus trop privilégiés, mais la basse classe est tellement, dépense beaucoup plus dans la sous-région. Donc, je crois que c'est la lutte actuellement de l'ARCEP pour pouvoir régler également cet aspect, amener les opérateurs de téléphonie à revoir les coûts de telle sorte que normalement, c'est cette partie de la population qui doit avoir plus de subventions, de largesse, mais force est de constater que c'est elle qui paie plus le prix, le lourd tribut. Donc, c'est la lutte actuelle également de l'ARCEP et on croise les doigts pour que dans les prochains jours, ces coûts également puissent être revus à la baisse et pour le bonheur des populations.
D'accord. Alors, oui, souvent, quand on écoute même les associations des consommateurs ou les associations de défense de la consommation, souvent ils insistent, ou elles, comme je parle alors d'associations, d'organisations, elles insistent souvent sur la réduction alors de coûts. On a besoin vraiment de cette réduction de coûts.
Bien sûr, tout le monde a besoin de cette réduction, mais moi je constate que ce qui a été fait au niveau des gros consommateurs, des gros détaillants, je crois qu'il n'y a aucune diminution. Parce que, en principe, si on a diminué pour les gros grossistes et autres, là, ça devait refléter et réjaillir sur les petits consommateurs que nous sommes. Surtout les crédits Internet qui coûtent plus cher, beaucoup, beaucoup cher au Togo ici. Et vous voyez, crédit Internet pour 66 gigas, on dit un mois, vous avez payé 15 000. Alors qu'ailleurs, vous pouvez l'avoir à 3 000 francs. Donc, je pense que si on veut vraiment réduire, il faut aider le bas peuple, le consommateur qui est en bas, pour qu'il sache qu'il y a une diminution. Mais si on concentre ça sur les VIP, des fois, ces VIP-là, on sait comment ça consomme. Et les VIP, lorsqu'on les compare aux petits consommateurs que nous sommes, vous voyez que peut-être que les sociétés de move, les sociétés de mobile de nos sociétés de, comment on allait dire, de téléphonie mobile,
les opérateurs de téléphonie mobile,
c'est que ils constatent que c'est le bas peuple qui est là et que le bas consommateur qui est là, et ce bas consommateur là, comme il paie beaucoup, donc ils vont s'enrichir et pouvoir compenser ce qu'ils ont diminué pour les grossistes. C'est comme ça, moi je suis en train de voir la situation. C'est que nous payons beaucoup. Donc, si on diminue.
Donc, on paie pour les riches en fait.
On paie pour les riches. Voilà ce que je veux dire. Donc,
en termes clairs,
c'est ça, on paie pour les riches. Lorsqu'on a diminué pour les grands, nous les petits, on va régler à leur place. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne vois aucune diminution qui a été faite. Et c'est peut-être de la com qu'on nous a présenté.
D'accord. Justin, l'ARCEP doit aujourd'hui faire des efforts pour que nous ne payions plus pour les riches, si je veux maintenir au thème alors d'Abbas.
Oui, forcément, parce que c'est le constat qui est fait. Ceux-là qui consomment au niveau de la base, ce sont eux qui achètent les crédits de communication 100 francs, 200, 500, mais eux, ils en consomment énormément. Mais malheureusement, ils ne bénéficient pas de réduction. Non seulement il y a le problème de coût qui est là, mais il y a aussi le problème de la durée de consommation. Vous payez un crédit peut-être 200 francs aujourd'hui, on vous dit, voilà, le délai de consommation, c'est 24 heures. Donc, dans l'intervalle de 24 heures, vous n'allez pas consommer ce que vous avez payé, très rapidement, on l'enlève. Ça voudrait dire que tout ce que est engrangé au niveau de la base remonte en termes de bénéfices pour ceux qui sont au sommet. C'est le paradoxe également au Togo, parce que ceux-là qui sont véritablement riches, ce sont eux qui, en réalité, doivent payer plus de taxes ou des impôts à l'État. Mais le contraire, c'est ceux-là qui sont au niveau de la base, qui sont pourchassés.
Mais est-ce que le Togo fait l'exception, vraiment ?
Malheureusement, c'est le constat qu'il y a eu. Malheureusement, c'est le constat. Parce que ailleurs, je n'en vois pas. Parce que vous prenez aujourd'hui le Bénin, par rapport à la politique économique et commerciale Gama qui est adoptée dans ce pays, quand vous comparez, il y a une différence. Et vous payez également les pays, les autres pays aussi nantis. Je pense que là, le degré en termes de consommateurs dont on parle est aussi autre. Mais quand vous prenez le Togo, vous n'arrivez pas à comprendre, malheureusement. Mais c'est là où également la CEPT, quoi qu'on dise aujourd'hui, quel que soit le travail qui est fait, est interpellé. Donc la CEPT doit revoir sa copie et voir dans quelle mesure il faut véritablement aider le bas peuple.
D'accord. Abbas, nous allons quitter le sujet de la télécommunication pour s'intéresser à l'agriculture. Agriculture, vous vous intéressez à l'agropole à l'Or de Kara. Vous écrivez projet de transformation agroalimentaire du Togo, agropole de Kara, cette filière à haute valeur ajoutée promue. Et vous parlez aussi du financement global initial qui est à 38,316 milliards de francs CFA.
Oui, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis 2017 que ce projet Agropole a été mis en place. Il devait couvrir 2017-2030. Mais c'est en 2020 que le gouvernement a pu le mettre dans la feuille gouvernementale pour en faire un véritable projet qu'on appelle projet de transformation agricole. Donc, et dans ce projet-là, il faudrait faire de telle sorte qu'il y a un projet pilote. Et c'est le projet pilote là qui a été créé dans la région, dans le bassin de la rivière Kara, qui couvre la région de Kara, qui est un projet pilote qui devait permettre aux Togolais d'avoir, aux agriculteurs là-bas, d'avoir au moins de ne plus de réduire la malnutrition, la pauvreté, de créer des emplois et faire de telle sorte que on ne dépend pas beaucoup de l'exploitation de nos agricultures, de nos produits agricoles, des produits agricoles venant de l'extérieur. Donc, dans ces conditions, il y a eu certaines conditions qui ont été posées. Donc, il y a le financement qui est de 318 milliards et quelques qui a été mis en place pour financer sept projets essentiels, à valeur essentielle, tels que le maïs, le soja, les maraîchers, et les volailles et les poissons. Donc, ces projets-là sont là, et c'est à partir de cet argent qu'on a pu créer les centres de transformation agricole. Et il y a un autre qui venait d'être ouvert à Sokodé la dernière fois, centre de transformation agricole. Et également les ZAP qui ont été construits. Les ZAP, on a eu plus de 32 ZAP. En principe, ces agropoles qui étaient mis en place devaient couvrir. Il y a 10 agropoles qui devaient couvrir l'ensemble du territoire. Donc maintenant, on a commencé par faire les ZAP, les zones agricoles améliorées. Et on a mis en place les forages. On a fait des irrigations, il y a les tracteurs qui ont été, le matériel qui a été mis en place. Donc ça a permis également des transformations dans certains villages où il y a eu l'électricité qui est arrivée, il y a eu l'eau qui est arrivée dans ces villages. Et également les bâtiments et autres ont été construits. Donc je pense que c'est les agropoles là qui ont permis ce temps. En attendant d'étendre ces agropoles là dans les autres régions. Donc, on pense que ça a donné quelque chose.
D'accord. On pense que ça a donné quelque chose. Il y a le journal libéral aussi qui est revenu sur le sujet. Le journal qui écrit « Transformation agroalimentaire, zoom sur l'agropole du bassin de Kara ». Alors, c'est vrai que quand on prend les agropoles aujourd'hui, Abbas parlait même d'ailleurs de quelques bénéfices que nous avons, quelques profits que nous avons déjà pour ce qui concerne alors les résultats de ces agropoles. Là, ça veut dire que ça ajoute quelque chose à notre agriculture.
Bien évidemment, les agropoles, l'expérience a commencé il y a quelques années avec l'implantation de certains, donc principalement celui de Kara, donc ça a permis d'abord d'avoir de nouvelles expériences au niveau des paysans et Le forum des paysans, faut pas également donner plus des idées précises au chef de l'État qui était entré en contact avec les paysans sur le terrain, avait recueilli à l'époque leurs préoccupations et tout. Toutes ces informations ont été reversées pour la redynamisation du secteur agricole. Donc, a priori, c'est de bons projets, mais il faut également aller faire le suivi sur le terrain pour voir comment est-ce que les choses se passent en vrai.
Tout à fait.
Puisque il y a déjà des informations qui fusent, qu'il y a des difficultés par endroit. Donc, en mettant en place des projets, il est important de faire le suivi et réadapter les choses au chemin faisant. Puis on peut aller faire des analyses, mais sur le terrain, on peut être confronté à d'autres réalités. Donc, a priori, c'est des projets qui doivent apporter un plus aux populations, mais si les difficultés ne sont pas réglées, il faut quand même comprendre que ça tombe à l'eau après. Donc, vivement que ces petits soucis qui se soulèvent aussi soient réglés et espérons qu'on fera un maillage de tout le territoire togolais avec la mise en place de ces agropoles là ou de ces AP également pour le bien-être des Togolais, des agriculteurs togolais et pas ricocher les populations togolaises dans l'ensemble.
C'est vrai que SL évoquait la question de suivi tout de suite par rapport même à ces agropoles. Et c'est un élément fondamental.
Très, très, parce qu'on sait ce que c'est que le projet ou la conception des projets au Togo. Maintenant, lorsque les projets sont là, la réalisation de ces projets, le suivi pose véritablement problème. Ça fait que les sous qui sont débloqués ici et là, ceux-là qu'on mette à la tête même de la réalisation de ces projets-là pose problème. Après, on se rend compte que c'est des gens qui s'enrichissent, mais le projet traîne et véritablement à être concrétisé sur le terrain, malheureusement. Donc, une chose est d'avoir le projet, une autre est d'avoir le suivi et de sa réalisation de façon convenable. Ne pas le faire, bon, on parlera de projet sur projet, mais sur le terrain, le constat est là que rien n'est fait, malheureusement.
D'accord. Sylvestre, on a besoin vraiment de ce suivi hein, pour que, du moins, qu'on ait des résultats aussi probants.
Oui, oui. Vous savez, si on prend le ministère de l'Agriculture, c'est ce ministère-là qui a tellement de projets.
Oui.
C'est ce ministère-là qui a tellement de projets depuis le colonel Agadazi jusqu'à présent. C'est le ministère qui a. Vous allez donc au ministère de l'Agriculture. Il y a plein de projets. Mais force est de constater que ça ne prend pas. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi on a tellement donc de projets dans ce domaine-là, mais qu'on ne sent pas l'impact au niveau donc des agriculteurs ou du moins des consommateurs. C'est là, je me dis que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a trop de communication autour de ces projets qui finalement ne donne rien. Même vous prenez l'adresse du chef de l'État à la Nation le 31 décembre 2024, le chef de l'État disait que pour 2024, ils ont mobilisé 10 milliards de francs CFA pour 149 000 agriculteurs. Là, si vous faites 10 milliards divisé par 149 000, vous allez trouver 67 114 francs. Est-ce que c'est avec 67 114 francs qu'on développe l'agriculture? Non.
Vous avez bien fait le calcul.
Oui, prenez 10 milliards divisé par 149 000. Vous trouverez 67 114,0 quelque chose. Mais si on donne 67 000, même si c'est 67 115 francs à un agriculteur, vous pensez qu'il peut développer l'agriculture avec 67 000 francs? Non. C'est pourquoi je dis qu'il y a tellement donc, de choses. On fait plus de communication d'avoir donc de réelles retombées positives sur le terrain. Bon, prenez ce ministère-là. C'est un ministre qui est pratiquement inexistant. Le ministère de l'Agriculture. Depuis qu'il est là, il est presque inexistant.
Vous voulez parler du ministre ou du ministère?
Je parle même du ministre en soi. On ne sent pas son impact. On ne sent pas son impact donc dans ce département-là aussi. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis que normalement, tout ce qu'on nous dit, Agropole et ZAP et tout ça, il y a tellement donc de choses, mais pourquoi ça ne prend pas? Est-ce que c'est le génie donc des premiers responsables de ce ministère qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Je crois que un beau matin, j'aurais même souhaité peut-être aller au Parlement et voir peut-être les députés interpeller ce ministre-là sur un certain nombre de projets. On lui pose des questions pour nous dire ouvertement qu'est-ce qu'il fait, quels sont les projets qui ont été déjà exécutés, quel est l'impact direct au niveau des populations. C'est ça, quand on parle de bonne gouvernance, c'est ça. C'est la reddition des comptes. Il faudrait aller dire réellement ce que nous faisons. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on nous parle donc d'Agropole. Akara. Demain, on nous parlera peut-être de quelque chose, donc, à Tchévier. Et on va, quoi, communication, et puis on va de projet en projet. Mais finalement, ça ne donne rien.
D'accord.
Pourquoi? C'est la question que nous posons tous. Quoi.
D'accord, voilà. C'est la question que nous posons. Abbas.
Oui, par rapport à ces gens, je pense que les projets doivent être suivis. Les projets qu'on donne là, qu'on prenne le temps de suivre, de faire le contrôle exact. Parce que lors des FOPAT, il y a les paysans, les acteurs qui ont soulevé ce genre de problème devant le chef de l'État. Qui leur a dit, les acquitteurs ont dit, vous avez évoqué tous ces genres de projets, mais c'est comme c'est dans l'air, sur papier, on n'a rien vu. Et le chef de l'État a interpellé les ministères concernés devant les paysans, les acquitteurs.
Et même le MIFA.
Le MIFA. À l'époque. Oui. Tout ça là pour leur dire, qu'est-ce qui se passe, de lui faire le compte-rendu de tout ça. J'ai ouï dire qu'il y aura encore d'autres faux pas au cours de cette année. On verra si le compte a été bien fait au chef de l'État pour qu'il prenne. Parce que le chef de l'État, lui, ne peut pas être partout. C'est pour cela qu'il a nommé des gens pour s'occuper de certains secteurs. Et si ces secteurs ne marchent pas, lorsque les projets sont financés, souvent même c'est avec l'agent des PTF, des partenaires financiers, qui vient nous aider, et qu'on ne voit pas ce que tout le monde veut voir, c'est-à-dire il n'y a pas un ressenti au niveau de la population, c'est qu'il faut se poser des questions. Est-ce que le suivi est là, total? Est-ce que tout ce qu'on envoie pour permettre aux populations de souffler, est-ce que c'est bien réalisé sur le terrain?
D'accord. Oui, Sylvestre, je reviens à toi pour aborder ce sujet, sujet que vous évoquez à la une alors de votre journal. C'est vrai, on en parlait, c'est par rapport au rapport de la Cour des comptes. Il y a cette sortie alors du Front touche pas à ma constitution qui est revenue même d'ailleurs sur ce rapport. Et vous écrivez pour SNPT, NSCT, SALT, où va l'argent des sociétés d'État? C'est une question que vous vous posez.
Non, je crois que c'est une question légitime. Hein. Et c'est une question que tous les Togolais se doivent hein, de se poser. Où va l'argent des sociétés d'État? Parce que si on se réfère à cette sortie du mouvement citoyen touche pas à ma constitution, et lorsqu'on écoute un certain nombre de choses, on tombe des nues. On tombe des nues. Et cela... peut-être nous rappelle un discours du chef de l'État, je crois que c'est le discours de 2012 qui disait que c'est une minorité qui accapare donc les richesses du pays. Et la deuxième partie qui est plus importante de cette déclaration, il dit que cela crée un déséquilibre nuisible hein, qui menace donc la démocratie et le progrès. Alors, vous prenez le fonds Tchus par ma constitution qui dit que vous prenez le port. Nous tous, nous connaissons le port. Et nous savons que c'est le seul port à eau profonde dans la sous-région.
Moment de l'économie togolaise.
C'est ce que nous disons. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par abus? Puisque nous avons l'habitude de dire que le port, c'est le poumon de l'économie nationale, le poumon de l'économie togolaise. Mais si on me dit que dans le budget de l'État, que le port autonome de Lomé ne contribue qu'à hauteur d'un milliard, là, on se doit de poser mille et une questions.
Est-ce que
c'est véritablement ce que nous disons? Est-ce que ce n'est pas un abus? Ou est-ce que nous ne trompons pas en présentant le port comme le poumon de l'économie nationale? Parce que contribuer à hauteur d'un milliard, ce port-là que nous connaissons, je l'ai dit, nous connaissons les trafics au niveau du port autonome de Lomé. Les pays de l'Italie, les véhicules qui défilent, vous allez au nord du pays, vous voyez les véhicules qui défilent vers l'intérieur du pays. Et on me dit que le port ne peut que contribuer. On n'a contribué qu'à hauteur d'un milliard. Il faut se poser des questions. L'autre chose, c'est les phosphates.
SNPT.
SNPT. Le ministre, le chef de la diplomatie togolaise, le ministre Robert Doucet, a été reçu en janvier 2021 sur la chaîne I24 News. C'est une chaîne israélienne. C'est au lendemain donc des Covid. Et le présentateur de l'émission à l'époque, en parlant du Togo, il présente le Togo comme les ressources principales du Togo sont les phosphates et le pétrole. Bon, le pétrole, ça, c'est autre paire de manches. On va en parler plus tard. Donc, il présente le Togo comme les principales ressources du pays, c'est les phosphates et le pétrole. Maintenant, un pays qu'on présente ainsi, et on nous dit aujourd'hui que la SNPT a contribué à hauteur de 0 francs dans le budget de l'État, on doit se poser des questions.
C'est-à-dire la société n'a
pas donné n'a pas donné un rond dans le budget de l'État. Eh bien, l'argent va où? L'argent va où? C'est pourquoi, en début de propos, je rappelais cette phrase du chef de l'État. En réalité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est lorsque le petit nombre... Voilà, en fait, c'est entre-temps, c'est devenu une minorité. Il a dit, c'est lorsque le petit nombre accapare les richesses nationales au détriment de la majorité, cela crée un déséquilibre. Alors, est-ce qu'il y a un petit nombre? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a toujours ce petit nombre-là qui fait main basse sur les richesses nationales? Parce que comment est-ce qu'on peut dire les phosphates, cette grande société que nous avons, a contribué à hauteur de 0 francs? Je voulais être un peu dans le féminisme, c'est pourquoi je dis à contribuer à hauteur de 0 francs. Sinon, je peux dire qu'ils n'ont rien donné. Ils n'ont même pas donné un seul franc dans le budget de l'État. Si on se réfère à ce que le fonds touche par là, ça veut dire que je tombe des nues. Voyez-vous, donc, ils ont cité d'autres sociétés. Comment est-ce qu'on peut être dans une république et on dit cela, ça fait pratiquement une semaine, et personne ne dit mot. C'est-à-dire que les gouvernants, parlez, quoi. Vous allez parler fatigué.
En fait, c'est la Cour des comptes qui a établi.
Justement, ils ont pris les rapports de la Cour des comptes en faisant une fixation sur le rapport de 2022 de la Cour des comptes. Comment est-ce que c'est possible que il y a quelques semaines, nous avons, on a commémoré la Tata ou l'accident de Sarakawa, c'est selon. Si vous connaissez un peu l'histoire donc de ça, c'est à un moment donné, il voulait nationaliser la CTMB.
Il a nationalisé
la CTMB. Et là, il a dit, c'est pourquoi est-ce que on voulait donc le tuer, c'est-à-dire que les impérialistes voulaient donc attenter à sa vie. Ça, nous parlons des phosphates. Et depuis lors, comment est-ce que l'ancien chef d'État qui a voulu cela, ça veut dire que ça doit rapporter pour le pays.
D'accord. Oui, mais est-ce que ça se comprend quand on lit vraiment ce rapport de la Cour des comptes et qu'on comprend que, ou on nous annonce que la SNPT ne contribue plus, ou enfin ne contribue pas au budget national?
C'est un peu curieux, ça, il faut le dire, c'est très curieux. Surtout, pour le port autonome de Lomé, on vient de le dire, c'est des trafics tous les jours. On voit les entrées aujourd'hui avec l'avantage qu'on a d'être le seul port en eau profonde. Tout le trafic est concentré chez nous. Vous avez vu même dernièrement le différend entre le Bénin et le Niger a poussé encore le Niger à venir exploiter notre port et tout ça là. C'est des recettes qui entrent naturellement dans les caisses du Togo, mais on se demande ça va où. Si tout le port autonome ne peut que contribuer à hauteur d'un milliard de francs CFA sur le budget de l'État, c'est un peu curieux, on se pose des questions. Et à côté, la SNPT. Là, carrément, on tombe des nues, sincèrement, on tombe des 0 francs, carrément, 0 francs. Mais tenez-vous bien, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est la pression sur l'OTA qui doit maintenant collectionner les recettes auprès des populations.
Justement. Au niveau des populations.
Oui, je vais dire en fait que ce sont les populations qui payent pour ces... Enfin, je ne sais quel nom il faut mettre dessus. Oui. Est-ce qu'on doit dire des disparitions dans les caisses ou de l'argent s'évade, ça va où? Mais dans n'importe quel pays, on ne peut dire que la société des phosphates n'a contribué à même pas un seul franc pour le budget de l'État. Personne ne peut le comprendre.
D'accord.
Et donc, on met la pression sur l'OTA et l'OTA, à son tour, met la pression sur la population pour les recettes fiscales. Et c'est comme ça, l'OTA pourvoit maintenant les caisses de l'État pour remplir le budget de l'État.
Mais c'est un rapport qui doit interpeller quand on lit dans les lignes alors de ce rapport et qu'il y a ces révélations que nous sommes en train de donner. Il y a le Front Tous Pas Ma Constitution qui a fait même d'ailleurs aussi des analyses alors sur ces révélations. Ça veut dire que c'est un rapport qui doit interpeller.
Oui, en fait, il faut préciser que c'est l'institution Cour des comptes qui a fait ce rapport-là.
Tout à fait.
Et là, la curiosité de Touche Pas à Ma Constitution est allée vers là. Nous avons eu à animer une émission la dernière fois avec M. Nathaniel Olympio.
Oui.
Et je lui ai dit que c'est un bon travail qu'ils ont fait. C'est une alerte qu'ils ont lancée à l'endroit.
Le vendredi dernier, nous l'avons reçu, même il était à votre place là.
C'est une alerte. Mm. Et j'ai précisé que ce n'est pas votre rapport. C'est un rapport de la Cour, une institution de la République mise en place par la Constitution. Et que ce rapport devait interpeller beaucoup les autorités du pays. Parce que ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes fait ce genre de rapport. Et il y a eu souvent des retards dans la présentation souvent de ces rapports, dans les préparations de ces rapports. De 2020, on est arrivé à 2022 pour faire un rapport et on a évoqué souvent ces problèmes de moyens, de personnel également pour faire tous ces rapports-là, pour préparer le rapport. Donc, le problème qui se pose, c'est la lettre qui a été lancée. Mais seulement la Cour constitutionnelle aussi devait expliquer comment les choses sont passées.
Donc,
les détails ont été donnés dans le rapport. Hein. Le rapport est là. Il faut le parcourir.
Tous les détails sont là. Et puis, c'est ça que l'autre, Touche Pas à Ma Constitution, a récupéré pour
venir. Eux, ils ont exploité.
Justement, en tant que citoyen.
Et la dernière fois, ils nous accusaient qu'en principe, c'est notre travail, nous les journalistes, d'aller chercher ce rapport et de venir le décortiquer. Et c'est le travail aussi de tout citoyen comme vous. Et vous l'avez eu.
Ma question, c'est de savoir est-ce que ça ne doit pas interpeller les autorités.
Mais c'est ce que j'ai dit, qu'en principe, comme c'est une institution de la République, ça devait interpeller les autorités. Même les autorités judiciaires, pour voir comment les fonds là sont gérés. Pourquoi certaines sociétés, même le Parlement, l'Assemblée nationale, devait interpeller des personnes pour dire comment se fait-il que au niveau du port, on a ça, au niveau de la SPT, on a ça. Il y a beaucoup de sociétés.
D'accord.
La société cotonnière du Togo également est
voilà. Ils sont une vingtaine.
D'accord. Ok. Justin, c'est vrai que nous avons connu même d'ailleurs ce rapport de la Cour des comptes aussi concernant la COVID-19. Et jusqu'à présent, nous n'avons même pas encore le nécessaire pour la suite même d'ailleurs de ce rapport. Parce que, entre-temps, vous avez vu à l'Assemblée nationale, il y avait même d'ailleurs une commission qui a été créée pour faire des enquêtes autour de la question. Mais est-ce que vous craignez peut-être que ce énième rapport de la Cour des comptes va subir les mêmes choses?
Mais tel que ça se passe, certainement oui, puisque c'est la problématique même de l'indépendance des institutions de la République qui est posée aujourd'hui. Et lorsque vous vivez dans une nation et que les institutions sont là et elles sont indépendantes, et chacune à son niveau doit quand même jouer son rôle. Malheureusement, moi, je n'en vois pas. Voilà, il y a une institution qui s'appelle la Cour des comptes qui a demandé même à l'exécutif, à un ministère, de lui produire des documents pour son rapport. Le ministère refuse. Ça se trouve également dans le rapport.
Tout à fait.
Et le principe dit quoi? Le rapport est établi sur la base d'une durée donnée et lorsque... Il y a lieu d'avoir encore les documents dans l'intervalle de 3 mois. Vous devez également produire les documents qui va permettre également à l'institution de travailler. Mais le délai, c'est quoi? Le rapport qui doit être produit pour le compte de l'année 2022 est maintenant publié en septembre 2024.
Deux ans après.
Deux ans après. C'est le paradoxe. Maintenant, sur la base de ces éléments-là, on nous apprend, je suivais quelqu'un la fois dernière, c'était hier ou avant-hier, nous disait qu'à la suite de la publication de cette sortie du fonds touche pas la constitution, on demande maintenant à auditer deux sociétés de la place. Il n'y a pas que deux sociétés. On parlait dans les années 2000-2020 de 46 sociétés d'État qui en réalité doivent quand même contribuer. Les 46 sont bien notées dans le temps. Et comment cela s'est passé? Ça s'est-il passé? Sur les 46, on se retrouve avec les 20 sociétés. Et parmi les 20 sociétés, il y a aussi les sociétés telles que SALT, oui, telles que la Lunato, telles que Port-Trois de Lomé dont on parle, telles que SNPT. Mais je fais également, vous savez, que dans les années antérieures, il nous a été dit que durant l'exercice d'une durée de 11 ans, l'SNPT n'a pas produit de rapport par rapport au comment est-ce que la boîte a été gérée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de comptabilité. Moi, je ne me rappelle pas. Enfin, je n'ai pas oublié. Les documents sont encore là. Et bien avant la sortie du fonds, tout ça à la Constitution, je fais observer également que la dynamique pour la majorité du peuple a fait une conférence de presse récemment, au cours de laquelle un bilan de l'année dernière a été présenté, comment ça s'est passé. Et sur le volet, sur ce chapitre également, comment est-ce que le budget de cette année a été élaboré et que Mme Brigitte Kafua Diamagbour n'a pas voté parce que, et au thème de récapitulatif, il n'y a que sur les 100% de tout ce qui est ramené en termes d'élaboration du budget, les sociétés d'État n'ont contribué que 3%. C'est ce qui est aussi paradoxe. Et je veux également observer que dans les années antérieures, l'Alliance nationale pour le compte du.
Pour le changement,
a présenté également un autre rapport. Je me rappelle à l'hôtel Eda Oba. Sur les flux.
3 000 milliards.
Voilà. Sur les flux. 3 000 milliards. Illégaux qui sortent du pays. Ça veut dire que nous sommes en face d'une gestion calamiteuse de la République, non seulement en termes de la politique, mais également en termes des finances et en termes de l'économie. Malheureusement, quand vous allez dans le bas-peuple, c'est ce bas-peuple-là qui souffre, comme ma consoeur a fait l'observation tout à l'heure. Maintenant, on piétine le bas-peuple de pouvoir contribuer dans la caisse de l'OTR, et c'est l'OTR, après tout, qui fait, c'est pas un résumé, ou qui pond un rapport, c'est sur la base de ce rapport-là que le budget de l'exercice 2025 est élaboré.
D'accord.
Alors que pendant ce temps, oui, les capitaux, moi également, dans le pays, sont en train d'être...
D'accord, on va revenir sur le sujet, certainement, mais je voudrais qu'on parle brièvement, bien sûr, alors de ce sujet que j'évoquais concernant aujourd'hui le 29. Ouais. Et là, on sait qu'au niveau alors de l'AES et la CEDEAO, c'est le divorce, mais finalement, c'est vrai, il y a d'autres formalités qui seront faites, mais... Pour le moment, est-ce qu'on dirait que ce divorce est consommé?
Oui, le divorce est consommé, puisque c'est officiel aujourd'hui. Depuis le 29 janvier, ces trois pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina ne sont plus membres de la CEDEAO. Oui, c'est une situation que nous regrettons tous. Et je crois qu'on ne devait pas venir à cet extrême-là si la CEDEAO ne s'est pas mal comportée. Je le dis ainsi parce que un pays membre de la CEDEAO, c'est-à-dire des pays membres de la CEDEAO qui menacent d'intervenir militairement, d'attaquer un pays membre, je crois que c'était l'extrême. Ils ont franchi le Rubicon et ceux-là ont décidé de partir. Parce que si vous êtes dans un groupe, vous êtes censé être protégé par le groupe. Maintenant, si c'est le groupe qui devient votre menace, à quoi bon donc continuer donc à coopérer avec ceux-là? Maintenant, quand ils ont annoncé leur retrait, la CEDEAO est devenue beaucoup plus sage. Parce que j'ai lu le communiqué, il demande à ce que les autres pays de la CEDEAO continuent de travailler, de coopérer avec les trois pays qui sont sortis, c'est l'AES. Il demande à ce que les ressortissants de cet espace-là, qui ont toujours le passeport CEDEAO, de garder les mêmes relations avec eux. Vous voyez, on aurait pu éviter ça. Donc, ils sont devenus un peu plus sages.
D'accord.
Mais le mal est déjà fait. Bon, je ne sais pas comment.
Ok. Qu'est-ce que les pays de l'AES, l'Alliance des États sahéliens ou du Sahel, qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement en quittant la CEDEAO?
Bah, ils sont mieux placés pour nous le dire.
Ils sont mieux placés pour nous le dire.
Oui, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, tout est parti de ce franchissement de Rubicon là où la CEDEAO voulait déclarer pratiquement la guerre à ces trois pays. C'est là où ils ont décidé de quitter l'organisation. Donc depuis là, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. La séparation est définitivement scellée. Puis s'ils avaient eu aussi un moratoire pour voir, pour les négociations, ce que ça va donner, mais jusqu'alors, rien n'a filtré. Donc, le divorce est consommé, ça il faut le dire.
Ils ont annoncé même un passeport.
Un passeport, comme voilà. Maintenant, c'est la CEDEAO qui sort un communiqué pour dire on garde toujours les mêmes avantages jusqu'à preuve de contraire. Donc, je crois qu'entre-temps, elle a pris aussi conscience de la fragilisation de l'institution. Puis, ce quoi qu'on dise, on peut tout reprocher à la CEDEAO, mais elle a fait également, elle a posé également des actions. Puisque les conséquences directes, c'est sur les populations toujours. Moi, je reviens toujours aux populations. Aujourd'hui, si les mesures sont corsées, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'AES, ce sont les populations qui vont encore en pâtir. Il faut rétablir de nouveaux passeports, la libre circulation des biens et des échanges. Ça va prendre un coup. Beaucoup de choses vont entrer encore en jeu. Donc, c'est les populations qui définitivement en pâtissent. C'est pourquoi moi, j'ai vraiment un pincement au cœur. Mais j'espère que les populations, ou mieux les dirigeants de l'AES, feront des émules pour se donner également raison, pour que demain, ça ne soit pas un bis repetita peut-être de la CEDEAO, quelque chose comme ça qui va faire garder également de mauvais souvenirs.
D'accord. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'économie de ces pays de l'AES qui prendra vraiment un coup? Parce que on connaît aussi la dépendance de certains pays, enfin de ces pays, alors du sahélien, par rapport aux pays côtiers.
Ouais, pour le moment, ça ne va pas prendre le coup, puisque dans le communiqué de presse rendu public par la CEDEAO aujourd'hui, le 29, on a dit que jusqu'à nouvel ordre, on continue avec, la CEDEAO continue avec tout ce qui s'est passé auparavant. C'est comme ça, pour ça, Sylvain disait qu'il fallait, on est venu dans un monde trop vieux, on a un retard dans un monde, il fallait faire ça. Lorsqu'il y a ces coups d'État là, pour calmer la situation. Parce que quand on prend souvent des actions, c'est la pauvre population qui en subit. Ce n'est pas ceux-là qui ont fait le coup d'État.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les choses continuent comme si c'était avant. Et tout de suite là, on annonce qu'il y a une conférence de presse qui est animée par le président de la commission de la CEDEAO. Ça doit démarrer, c'est à 12h11, on a dit que ça devait démarrer. Ça doit démarrer actuellement. On va voir la suite pour voir ce que cette conférence de presse-là va donner.
D'accord. Oui, mais Gisèle, quelle analyse vous faites alors de cette rupture, allons-nous dire, définitive, entre la CEDEAO et l'AES?
Non, il faut quand même dire que le lendemain ne sera pas rose hein, pour ces trois pays. Mais il faut quand même avouer qu'à un moment donné, les organisations de l'Afrique... ils sont malades, à commençant par UA. Vous voyez ce qui se passe au niveau de
Goma,
Congo, de l'autre côté.
RDC.
Une organisation africaine qui est impuissante vis-à-vis de ce qui se passe.
Et le mal même d'ailleurs, c'est que l'ONU même d'ailleurs est impuissante.
C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique, ce qui se passe dans la zone CEMAC et la CEDEAO, mais vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous avez dit que ces organisations-là sont malades. Pour ce qui concerne la CEDEAO particulièrement, c'est parce que le Rubicon est franchi. Vous prenez le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, le principe est là, vous ne pouvez pas accepter le coup d'État. Mais lorsque les gens prennent des armes, vous les menacez, vous coupez la coopération avec eux, les sanctions contre eux, mais lorsque les gens font des coups d'État, comme on l'appelle ton
constitutionnel,
vous ne dites rien. Je pense que sur la base de ces principes-là, qui... non seulement du volet politique, mais également du volet économique, lorsque les organisations n'arriveront pas à trouver de solutions idoines au niveau interne pour les problèmes qui se posent, donc les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, dans un ensemble, surtout qu'aujourd'hui, il y a un principe qui est déterminé, vont trouver certainement de solutions pour sortir de ces organisations. D'accord. Voilà malheureusement le constat.
D'accord, merci beaucoup, cher confrère. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne, à réagir sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Nos deux numéros, c'est 90-86-35-35 ou 91-36-63-115 et aussi, et ils peuvent réagir aussi sur d'autres numéros WhatsApp 90-45-78-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels, bien sûr, vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonsoir, chef.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je vais très bien.
C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Ah, Sylvain.
Oui.
Allez-y.
Bon, je remercie tous les confrères qui sont au plateau. Bon, pour la RLC, là. Au début, comme ils disent, ils ont pris un chemin de non-retour. C'est ça qui se concrétise aujourd'hui. Donc, on ne peut pas les en vouloir. Et au début, c'est la force qui a tout gâté. Et ils sont déterminés. Ils disaient qu'ils ne seraient pas une promenade de santé. Quand la CDAO s'entête pour envoyer ses troupes, ce ne serait pas une promenade de santé. Ils étaient déterminés. Donc, c'est ça qui se concrétise aujourd'hui. On ne peut pas les en vouloir. Et pour le rapport, nous on dit, hein, le Togo plus qu'en tant que pays. Si les sociétés, les biens publics est distribué équitablement. C'est ça, monsieur, quand ils sont à la tête de sociétés, c'est leur avenir. Ils calculent leur avenir, non l'avenir du Togo. Alors que c'est des cultures d'État. C'est ça le mal du Togo. Et rien n'est contrôlé. Et personne ne dit rien. Franchement, le Togo peut s'en sortir. On peut vivre heureux chez nous. Avec tout ce qu'on a. C'est déplorable quand on entend ça, quand un Togolais l'engage. Et puis c'est le Togolais la mère qui fait à leur place. Et ils roulent dans des 4x4, c'est FAO, comment on l'appelle, c'est FAO.
D'accord, merci beaucoup Sylvain, merci pour votre intervention, 90 86 35 35, 91 36 63 75, nous allons donner la parole à un autre auditeur, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Allô?
Oui,
allô, oui.
Pardon, votre nom c'est
Adjougli.
Adjougli, vous nous appelez d'où?
Oui. Je vous appelle de Rancopé.
Vous nous appelez de Rancopé, allez-y.
Oui. Bon, tout à l'heure, c'est par rapport au fait qu'on dit que la CDAO devient sage. Est-ce que c'est vraiment sage? Moi, je pense que parmi la communauté, certains seront heureux, hein, que ce soit, entre guillemets, on peut les qualifier de tout négativement, et ils n'ont qu'à passer dans ce cas, parce qu'ils embrouillent les gens. Bon, maintenant, d'autres vont dire, non, de manière logique et de manière respectueuse, on ne peut que faire comme ça, parce que quand on est en groupe, on fait semblant même de dire, bon, ok, non, non, allons-y. Aller négocier avec eux. On ne peut pas aller dégager. Voilà. Donc, moi, je pense que ce n'est que ça. Hein. Sinon, si la CDAO aussi veut continuer à résister et que les trois sortent, tant que la vie continue, il y aura des organisations. Mais jusqu'à ce que le dernier quitte la CDAO et que la CDAO n'existe plus. Bon, maintenant, il y a débat, hein, par rapport à la suite. Aujourd'hui, les gens applaudissent pour le passeport. Bon, on ne peut que dire, essayer de les accepter. Bon, vous voulez qu'il y ait du développement sur tout le continent ou bien dans ce pays-là, si on refusait. Moi, j'attends la réaction de l'Europe par rapport à ces passeports aussi. Soyons lucides par rapport à tout cela. Par rapport à la monnaie de l'AES, j'attends comment est-ce que les plus puissants vont résister ou réagir à tout ce qui se fait. Moi, je pense toujours à ce culturel qui a démarré cette affaire depuis des années, mais est-ce que le problème ne vient pas toujours de l'Africain?
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Adjougli, pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la presse de ce mercredi. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Bonjour, Pelé.
Bonjour, Pato.
J'espère que vous allez bien.
Ok. Moi, ce qui me concerne, c'est le rapport des fonds.
D'accord, allez-y.
Bon, je ne sais pas si ce rapport ne va pas interpeller le chef de l'État. Et si ce rapport ne va pas interpeller le chef de l'État, au moins ça va interpeller l'Assemblée. Si ça n'interpelle pas l'Assemblée, ça doit interpeller automatiquement le peuple togolais. Je pense que les Togolais ne vont plus perdre le temps de chercher à savoir pourquoi la population mange dans la poubelle. Les Togolais ne vont plus perdre le temps pour savoir pourquoi on ne construit pas des hôpitaux, des routes, des hôtels, des grandes stades de contournement à la FIFA. Les Togolais ne vont plus perdre le temps. On doit comprendre que ce que le chef de l'État a dit, ce n'est que la confirmation. Il y a une minorité qui s'accapare à la sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à chercher à savoir cette minorité-là? Est-ce que c'est le peuple même qui va agir? Ou bien les autorités même vont agir? Les journalistes sur le plateau, ça ne vous concerne pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les marchés, les dames du marché, est-ce qu'elles vont se lever pour ça? La question que nous posons aujourd'hui, le pays n'appartient pas à une minorité dont on parle. Alors, si aujourd'hui, on dit que je pense que le 5 février prochain, on va célébrer la commémoration de 20 ans du décès de Yadema. Alors, je pense que c'est le président Yadema qui avait récupéré les restes de pourcentage de phosphate que les colons ont confisqués. Alors, pourquoi l'argent ne rentre-t-il dans la tête? C'est-à-dire que, est-ce que le phosphate n'a plus de qualité? Il y a une maison, on ne vend plus ça? C'est la question que les Togolais doivent savoir.
D'accord.
À demander aux autorités. Mmh. Est-ce qu'il faut aller à l'Assemblée? Oh. Parce que, des fois, l'Assemblée est ouverte. Donc, je pense que, c'est l'appel que je fais à toute la population de Saint-Café et d'Ancassé de comprendre que ce rapport dont je salue de passage, M. Nathaniel Olympio, avec son système à construction et les autres, de faire un bon travail et que la balle est dans le cadre du peuple que vous même.
Merci Pelé pour votre intervention. Bonjour le plateau. Merci pour le débat et les analyses de ce jour concernant le rapport de la Cour des comptes sur les contributions des sociétés d'État. Le Togolais refuse de lire et de réagir. Pourquoi cette bande de pieuses est en paix? Et pour le moment, nous méritons ces dirigeants, c'est Constant et la réaction de Constant. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Allô? Je suis Tofu de la Paris.
Oui, votre nom c'est?
Allô?
Votre nom c'est?
Kwaku.
Monsieur Kwaku.
Oui.
Oui, vous nous appelez d'où?
De
décidément, il semble que vous avez rapproché plus votre bouche au téléphone.
Ah, d'accord. Ça va mieux.
Il y a aussi un écho. Alors, là, nous allons recevoir notre auditeur. Monsieur Kwaku, vous nous excusez. Allô? 90-86-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, directeur.
Oui, papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Oui.
Le peuple togolais vous doit. Grâce à vous, le peuple togolais sait ce qui se passe. Si c'est vrai ce que vous avez dit, nous prions le chef de l'État, notre président de la République, de tout faire pour tout harmoniser, pour améliorer les conditions vitales des Togolais. Journaliste que vous êtes, là où vous êtes, que Dieu fasse les petits marchands au bord des rues, que le Togo est ce qui lui revient. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Avec la CEDEAO, on parle de libre circulation, mais ça a été toujours des raquettes sur raquettes. Et ce qui concerne l'AES, on ne sait pas encore à quoi s'attendre. On dit souvent que Cabrimor n'a plus peur de couteau, donc on va faire avec. Merci, c'est André qui nous écoute depuis Dakar. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Et bonjour les amis, mes salutations à tous les journalistes. Vous savez, la CEDEAO ne devait pas réagir de la façon comment on peut trouver une solution à un coup d'État qui a été bien réussi sans mort d'homme. La CEDEAO devait suivre la transition pour que le pouvoir revienne dans la main d'un civil après les élections. La CEDEAO même est une bombe, ça va exploser un jour. Bonne émission. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Abdel.
Abdel.
Oui, allez-y.
Oui, concernant la finance publique, je souhaite que cette fois-ci, le président de la République fasse en sorte que les Togolais ne pensent pas que ceux qui gèrent nos sociétés d'État et qui font de n'importe quoi avec les finances publiques sont toujours laissés faire. Non. Que le président fasse en sorte que les Togolais pensent désormais que ceux qui s'amusent avec les finances publiques mérite le sort qui doit être appliqué. Concernant l'AES, vous venez de poser une question à votre collègue, à savoir qu'est-ce que l'AES, les pays de l'AES gagnent réellement. Moi, je pense que les pays de l'AES gagnent en liberté, en dignité. L'indépendance, c'est maintenant qu'ils sont réellement indépendants. Vous ne me direz pas que tous les pays de la CEDEAO sont réellement indépendants. Si nous avons exculpté un peu ce que c'est que la CEDEAO, nous savons qu'elle est pilotée d'ailleurs. Même regardez les simples décisions de la Cour communautaire de justice de la CEDEAO ne sont pas appliquées dans les états de la CEDEAO, ne sont pas exécutées. La CEDEAO présente beaucoup de carences. Aujourd'hui, la liberté, la réelle indépendance des pays de la CEDEAO vont permettre à ces États d'orienter leur pays dans le sens qu'ils voudraient pour permettre un développement durable. C'est tout. Ce n'est qu'avec le temps que nous allons l'observer. Et moi, mon souhait, c'est que tous les pays, y compris le Togo, fassent partie de l'AES. Cela nous permettra aussi de sortir de beaucoup de maux. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Abdel. Et c'est sur l'intervention d'Abdel que nous mettons un point final à la réaction, surtout des auditeurs. Mais je lis cette réaction de Maglibé, bien sûr, qui se trouve en Belgique, qui nous écrit rapport de la Cour des comptes. Le port est le poumon économique du Togo et les phosphates constituent le sang qui coule dans ses veines. Si la minorité corrompue s'accapare de ces deux éléments, vaut mieux vendre le Togo aux pays limitrophes pour éviter l'embrasement qui pointe son nez. Et le Togo fait pitié, c'est ce que écrit Maglibé depuis la Belgique. Alors, nous revenons en plateau pour la réaction des uns des autres à la suite, alors de la réaction des auditeurs, j'allais dire. Sylvestre, vous avez suivi les uns les autres, y compris même d'ailleurs la réaction écrite sur WhatsApp. Et quelle est votre réaction?
Non, je prends le dernier, c'est Maglibé, non?
Oui.
Je prends le dernier qui conclut en disant que le Togo fait pitié. En réalité, c'est cela. C'est cela. Regardez tout ce que nous venons d'évoquer. Comment est-ce que le port que nous connaissons, les phosphates et tout, on nous dit que ces deux sociétés-là ne peuvent pas contribuer valablement au budget de l'État et qu'il faille que ce soit l'OTR qui soit au four au moulin. Je vois que cette année, le cap est mis sur
1200
milliards. Voyez-vous. Et à chaque fois, il faudrait que l'OTR hein, puisse aller vers les populations hein, pour qu'on puisse véritablement avoir des moyens pour le budget de l'État. Hein, avant d'élaborer le budget, je crois que ces sociétés, on doit déjà passer par l'OTR pour savoir, bon, monsieur, combien vous prévoyez hein, cette année pour nous. Or, il y a d'autres sociétés qui sont là et qui peuvent valablement jouer ce rôle-là. Donc, voilà, ce pays fait pitié. Vivement que les gouvernances reviennent à de meilleurs sentiments pour le décollage du pays. Voilà.
D'accord. SL?
Non, comme d'habitude, je ne commente pas les commentaires des auditeurs, mais tout ça...
Il y a un auditeur dont je viens de lire, même d'ailleurs sa réaction, c'est M. Nyamaku, avant l'appel alors de Abdel, qui vous fait un coucou spécial.
Ah, merci, vous avez fréquenté ensemble? Non, je ne le connais pas, j'avoue, je ne le connais pas, mais merci, ça va droit que je passe par lui pour faire un coucou également à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Mais je reviens pour dire, en fait, quelles qu'en soient les situations, on reste patriote, quoi. Le Togo, c'est notre bien à nous. Donc, dire qu'on va vendre le Togo, je sais que c'est une manière de parler, mais on reste quand même patriote. On continue pas à faire les analyses et vivement que ce qu'on décrit soit pris en compte pour le bien-être des populations surtout. Donc, les gouvernants sont en principe au service des populations. Sans les populations, leurs actions, ça ne compte pour rien. Donc, vivement que les oreilles écoutent et que les solutions idoines soient trouvées.
D'accord. Abbas?
Oui, je pense que j'ai eu, par rapport à l'AES, je pense que ce qu'ils gagnent, c'est la souveraineté. Leur souveraineté qui sont en train de se prévaloir. On va voir si ça peut leur bénéficier quelque part. On peut aller. Mais par rapport aux interventions des uns et des autres qui disent que le Togo est tel, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer les conditions de vie des gens à travers des projets. Nous l'avons dit tout à l'heure, le chef de l'État s'investit, mais ceux qui sont chargés de l'exécution de ces projets n'ont qu'à bien faire pour que tout ce qu'on met, pour que la population puisse au moins sentir quelque chose, le fasse dans de bonnes conditions et que le suivi soit fait. C'est parce que ce n'est pas bien exécuté que les gens croient qu'il n'y a rien. Or, en haut, on dit que nous avons fait ceci, on a fait, il y a des projets qu'on a fait ceci, mais ça n'atteint pas la population. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faudrait qu'on puisse, on soit regardant de ce côté-là et que la population dise, au moins je peux trouver à manger deux fois dans la journée. Si ce n'est pas ça, les gens vont continuer pas à dire que, au moins, j'ai dit au moins deux fois.
Si les gens demandent que ça soit trois fois.
Au moins, donc ça peut être trois, quatre, cinq fois.
Effectivement.
Donc, c'est ça.
D'accord. Justin?
Non, parce que l'un des principes même de la démocratie, c'est l'alternance politique. Un pays qui ne connaît pas l'alternance politique, il y a une seule famille qui est là pendant 58 ans, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Malheureusement, le Togo ne mérite pas ça. Quelqu'un a eu déjà à l'écrit, l'Afrique est malade de ses dirigeants. Vous le savez mieux que moi.
On parle de ces hommes politiques.
Voilà. Donc, les dirigeants.
Robert Doucet.
Donnez son nom. Tu as donné le droit, il donne le nom de l'écrivain.
Ah ouais. C'est Robert Doucet. Non, je n'ai pas oublié. Ça dit beaucoup de choses. Permettez, j'ai un frère qui a soufflé une bougie de plus hier. Stéphane Folianani, l'informaticien, le grand. Je lui salue au passage. Et coucou également à la couturière Akofa Agbeto. Depuis Bessouzanetti, monsieur Laurent.
D'accord. D'accord. Alors, on termine cette émission sur ce titre de Sylvestre Béni. Oui. Sylvestre, vous écrivez, c'est vrai, on n'a pas eu le temps nécessaire quand même d'en parler. À la une, bien sûr, du journal, je lis démocratie tétraplégique et si fort, respectait au moins fort.
Oui.
On en parlera.
On en parlera.
Justement, c'est affaire à ça.
Mais il n'y a pas de note aujourd'hui.
Puisque l'heure est déjà avancée, mais si tu tiens justement à cela.
Oui, je ne sais pas si le délestage a repris de plus belle, mais depuis une semaine, voilà. Je constate qu'il y a encore de la coupure d'électricité pratiquement tous les jours. Donc, vivement que la CET nous situe. Mais déjà, je voudrais attribuer un 5 sur 10.
Avec votre stylo rouge, vous donnez 5 sur 10. 5
pratiquement tous les jours, il y a coupure de courant.
D'accord, 5 sur 10. Alors, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Sylvestre Béni, merci à toi.
Merci.
Merci Estelle Koudzornou. Merci Abbas Issaka. Justin Anani, merci d'être passé aussi dans cette émission. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Merci à vous pour votre intervention ici au Club de la Presse. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.